Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Salut, c'est Soprano. Je suis très heureux d'être le parrain du 35e Téléthon. Le combat des familles est extraordinaire et les victoires remportées contre la maladie sont incroyables. Le 3 et le 4 décembre, vous verrez à quel point le Téléthon a tout changé. Continuons ensemble, soutenons les chercheurs, faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr. Merci, je compte sur vous.
Et justement, on compte sur vous et on compte également avec nos invités, Tony Gem, parrain du Téléthon du Val-de-Marne. Tony, bonjour et toujours fidèle au poste.
Bonjour, et bien toujours. Pour les bonnes causes, je suis toujours là.
Avec nous aussi la coordinatrice AFM Téléthon Val-de-Marne, Amalie Forer, bonjour.
Voilà, Bondi, bonjour.
Et alors, un bon week-end à perspective de travail.
Ah oui, puis ça a déjà bien commencé. Hein, là, depuis ce matin, je suis partie déjà sur les marchés voir des gens faire de la tartiflette à Saint-Maurice.
Miam, miam. Bon, je vais en avoir
pas le moment de parler.
Bon, avec nous également, Suzette Fernandes, association Hirondelle. Alors, Hirondelle, on va rentrer dans le détail, mais à chaque téléthon, vous avez des marathons, c'est le cas de le dire.
Ben oui. Ben, on n'est pas des femmes pour rien.
Bon, merci. Non, Tony, on est ravis pour l'hiver. Alors, ce téléthon, peut-être commencer par... quel est le mot d'ordre du téléthon 2021, Marie?
Alors, le téléthon, c'est le thème, c'est les lumières sur le téléthon. Pourquoi lumière? Parce qu'on commence à avoir des réussites. Et du coup, voilà, il faut mettre la lumière sur le téléthon. Puisque ça a changé la vie de certaines personnes, qui sont d'ailleurs représentées ici, les ambassadeurs du Téléthon, qui ont bénéficié d'essais thérapeutiques. Et du coup, il faut mettre la lumière, il faut continuer à parler du Téléthon et que ça brille.
Ça brille. Alors, quand on parle de Téléthon, bon, il y a trois choses, entre autres, hein, quand on parle des laboratoires Généthon, ISTEM, Institut de Myologie. Donc c'est
le laboratoire Généthon, il ne faut surtout pas oublier que c'est grâce à l'argent du Téléthon depuis des années que ce laboratoire a pu être créé.
Alors par rapport à l'année 2020, grosse différence. Ça, on va pouvoir avoir un certain nombre d'activités en présentiel, comme on dit.
Oui, tout à fait. Et les organisateurs étaient ravis pour ça et les personnes qui participent, les donateurs, les gens qui veulent simplement participer au Téléthon, ils sont heureux et c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver.
Donc je suppose, j'ai regardé tout à l'heure sur Facebook, non, sur les réseaux sociaux, oui. Plus de 17 000 manifestations dans toute la France, un truc comme ça.
Oui, bien sûr, parce que il y a des gens qui ont été un peu déçus de l'année dernière, même si on a quand même fait un chiffre honorable. Puisque donc il y a eu beaucoup d'abord des ventes sur les marchés, etc., mais aussi des gens qui ont fait des dons, en fait. Mais cette année, en effet, du coup, les gens se sentaient libérés et avaient envie de se retrouver, parce que c'est vraiment ce qu'on parle, hein, c'est, on a envie de se retrouver, il faut le présentiel, c'est très très important.
Alors, Tony Gem, cette année, davantage de travail, alors on va trotter davantage.
Moi, parce que ce que je pense, c'est que les gens sont encore plus motivés, je pense, cette année. Je vois, par exemple, dans certaines villes, comme la mienne, où il y a plus de manifestations, que les années précédentes. L'année dernière, c'était une année à vide. Ça a été, quelque part, c'était un vide pour les gens. Notre Téléthon, bon, il a existé, les gens ont collaboré, les gens ont travaillé pour le Téléthon d'autres façons. On est quand même arrivé à un bon résultat. Mais je crois que les gens sont encore plus motivés cette année. Et je suis très content parce que c'est important. On voit on voit la lumière quand même au bout du tunnel. Ça fait déjà quelques années qu'il y a des bons résultats. Et je pense que ça sera de mieux en mieux.
Oui, il faut rappeler que c'est la 35e édition déjà. Oui. Alors justement, bon, on est encore en pleine pandémie de Covid. Bon. Les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes. Il y a une augmentation de précarité aussi. Donc, ça veut dire que la solidarité, peut-être, elle se renforce quelque part.
Ah, toujours. Toujours. Oui. La solidarité, elle est là. Les gens... Alors après, bon, moi, je parle du Téléthon parce que c'est ce que je représente. Le Téléthon, ce qu'il y a de bien, c'est que les gens, en fait, participent. C'est pas simplement d'aller manger une crêpe ou de courir, etc. Ils font une bonne action. Et même là, comme je disais, la semaine dernière, je suis allée voir des écoles primaires, les enfants, parce que c'est bien de les éduquer tout petits comme ça. Et je leur disais, quand ils vont courir la semaine prochaine, je leur disais, pensez à courir pour tous ces enfants qui, eux, ne peuvent pas courir.
Voilà. Les gens sont conscients quand même de l'importance du Téléthon. C'est pour ça qu'ils sont, motivés, pas seulement pour ça, je pense que la générosité des gens, ça compte énormément. Mais ils sont conscients, je pense qu'on est tous conscients de l'importance de Téléthon. Mmh. Sans le Téléthon, il y a énormément de maladies, qu'elles soient petites ou grandes, qui seraient toujours cachées. Et aujourd'hui, on arrive, et grâce au Téléthon, il y a des médicaments qui sont en train d'être fabriqués, parce que les grands fabricants, les grands pharmaciens, ça ne les intéresse pas en réalité.
C'est pas rentable pour eux.
Donc, grâce au Téléthon, on commence à avoir des médicaments pour traiter les gens. C'est extraordinaire.
Alors, Suzette Fernandes, le défi pour cette année, des femmes, il faut le dire, on est en des femmes.
Alors, le défi cette année, c'est un peu particulier. Il va se dérouler sur deux territoires, donc sur le Val-de-Marne et se terminer sur Paris. Nous avons commencé il y a quelque temps à tricoter des drapeaux. Alors, tout ça est donc fabriqué manuellement. On a essayé, franchement, de le faire à la machine pour essayer de gagner du temps et que ça soit plus régulier. En fait, c'était très moche. Donc, on a tout défait et on fait tout à la main. Donc, nous avons tricoté le drapeau portugais et le drapeau français, de dimension quand même assez conséquente, puisque c'est du 1,50 m sur 3 m, il me semble, ou plus, chacun. Ces drapeaux vont être accolés sur une grande bâche, une bâche plastique, donc. Nous allons ensuite mettre le logo du Téléthon, mettre le logo de Radio Alpha, bien sûr, puisque Radio Alpha, il ne faut pas oublier quand même qu'elle est hyper participante depuis plusieurs années, puisqu'elle met à notre disposition quand même gratuitement les locaux. Les journalistes sont tous bénévoles et pour cette action du Téléthon. Ensuite, donc, nous allons accoler également, et c'est là que le public peut intervenir, et je les appelle vraiment à intervenir et à participer, nous allons accoler des logos d'entreprise. Donc, ces logos vont, il faut nous les envoyer, bien sûr, accompagnés d'un chèque à l'ordre de l'AFM Téléthon, et nous allons les apposer sur cette bâche. Une fois que nous aurons tous les logos, et que tout sera prêt, donc nous allons le préparer sur place, ici, samedi matin, à partir de 8h, nous allons préparer cette grande bâche.
Où ça, exactement?
À Radio Alpha.
À Radio Alpha, d'accord.
Dans les locaux. Et nous allons donc préparer cette grande bâche. Une fois qu'elle sera prête, nous nous déplacerons, et nous irons donc à l'ambassade, que nous avons juste reçu les autorisations cette fin de semaine. C'est pour ça qu'on a mis du temps aussi à l'annoncer, parce que c'est long à obtenir ce genre d'autorisation. Parce qu'au départ, on avait eu des idées un peu folles et on est vite retombé sur terre.
Non, de très bonnes idées.
Et donc, nous allons donc poser cette banderole ou cette bâche, plutôt, sur le grillage de l'ambassade du Portugal à Paris, où elle pourra rester pendant tout le week-end.
D'accord. Et alors, les entreprises, où est-ce qu'elles envoient le don à FM Téléthon, mais où exactement?
C'est chez nous qu'elles envoient le don, donc, parce que ce sera notre participation au Téléthon. Donc nous les remettrons ensuite le samedi soir, nous les remettrons à Amalia, mais ils doivent être libellés à la FM Téléthon, ne pas entrer dans la comptabilité de l'association, et ils passent directement sur la FM Téléthon qui, à leur tour, leur enverra un reçu fiscal.
Voilà, ils auront une remise...
66% donc de réduction pour les impôts. C'est toujours ça, mais moi je voudrais rajouter que notre défi ne s'arrête pas là. Nous avons aussi, j'ai demandé à Amalia l'autorisation d'avoir une table de vente, parce que comme tout le monde sait, nous fabriquons des produits artisanaux, et là nous avons fait pas mal de couronnes de Noël, des produits pour Noël, et nous allons avoir une table de vente en faveur de deux petites filles qui souffrent de paralysie cérébrale et qui sont au Portugal. Ces deux petites filles sont déjà suivies par des associations ici en France pour leurs soins. À hauteur, je pense, de 15 000 ou 20 000 euros par an chacune, pour les soins payés directement à la clinique et au kiné. Ce sont des familles très en grande difficulté et en grande précarité. Donc nous avons décidé de leur fournir des vêtements et des chaussures, donc de les habiller pour l'hiver et le printemps-été, Et ce sera le produit de cette vente, de cette table de vente. Donc j'appelle aussi les auditeurs, s'ils le veulent bien, à venir dans le respect hein, des règles sanitaires. Nous aurons du gel et des masques à leur disposition. Et évidemment, nous aérons les locaux de forme très régulière. De venir donc à partir de 8h du matin, pouvoir acheter ne serait-ce qu'une petite déco Noël à 3 €, pourquoi pas. Et ces 3 € seront versés intégralement à l'habillement, de ces deux petites filles. Je parle des deux choses parce que le Téléthon c'est important, mais de pouvoir aider ces deux petites filles qui n'ont pas les mêmes aides au Portugal que les petites ont ici souffrant de la même maladie, ben, ça nous touche aussi puisque nous sommes quand même une radio de franco-portugaise. Donc si nous pouvons aider des deux côtés, c'est avec plaisir.
D'accord, toutes ces infos, on va les retrouver sur les réseaux sociaux.
Alors nous allons créer, il y a un événement Facebook qui est créé par Victor Santos, du programme de la matinée sur la radio. Il crée un événement sur Facebook, vous allez retrouver ça donc sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pardon, donc le réseau social des Hirondelles, de l'association, également sur le mien et sur toutes les filles de l'asso.
Salut, c'est Soprano. Je suis très heureux d'être le parrain du 35e Téléthon. Le combat des familles est extraordinaire et les victoires remportées contre la maladie sont incroyables. Le 3 et le 4 décembre, vous verrez à quel point le Téléthon a tout changé. Continuons ensemble, soutenons les chercheurs, faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr. Merci, je compte sur vous.
3637, il ne faut pas l'oublier, mais également avec l'Internet. Alors, 94, il va y avoir des dizaines et des dizaines d'initiatives.
Centaines.
Bon, alors allons-y. Qui c'est qui commence ?
Ben, un petit peu partout, hein. C'est pareil, le programme vous le retrouvez sur le site de l'AFM Téléthon, vous cliquez sur le 94, et d'ailleurs comme nos auditeurs sont aussi dans les autres régions, c'est pareil, vous cliquez sur les départements qui vous intéressent et vous verrez les nombreuses animations qui ont lieu. Alors nous, il faut savoir que dans le département, mis à part 2-3 villes qui ne le font pas, hein, comme Vitry, Gentilly, chaque année on essaye de faire en sorte qu'ils fassent le Téléthon. Alors par contre, dans ces villes-là, on a quand même des donateurs. On a quand même beaucoup de donateurs et c'est ce que j'explique au maire à chaque fois de ces villes-là, en leur disant, vous voyez que le Téléthon intéresse vos citoyens, mais bon, pour l'instant, non, mais sinon, on est donc sur les 47 villes du département, nous, on a 45 villes qui organisent le Téléthon. Ça a déjà commencé, comme je vous dis, hein, là, ce matin, on est allé à Saint-Maurice pour au marché, et voilà, mais là, dès lundi, beaucoup des étudiants en fac de médecine, Créteil, Crème-la-Bicêtre, eux, ils font ça dans la semaine parce que évidemment le week-end ils sont pas forcément à l'école. Et mais du coup, donc on commence en fait dès lundi. Enfin moi, je commence dès lundi à aller voir donc déjà ces personnes-là. Et après, on a vendredi, samedi et dimanche plein d'animations.
Alors le parrain, il peut pas être partout, mais il y a des trucs incontournables.
Moi, j'accompagne ma coordinatrice où elle dit on y va, ben j'y vais. Pour essayer de motiver un petit peu ces gens-là et pour montrer aux gens qu'on est là, qu'on est avec eux. Quoi. Voilà, et s'ils ont besoin de quelque chose.
Non, le planning n'est pas évident à faire parce que d'abord, on a des personnes qui se réveillent maintenant. Alors, je pense que c'est pas forcément à cause du Covid, etc. C'est juste que les gens, en fait, entendent parler du Téléthon et d'un seul coup se disent « Ah ben oui, mais moi aussi, je veux faire le Téléthon ». Donc, il faut qu'on réponde, bien sûr, à ces gens-là parce que le Téléthon, ça se fait pas comme ça. Et ensuite, et ben, le planning, moi j'ai une équipe, hein, parce que je suis pas toute seule dans l'équipe de coordination. Donc eux, ils disent là où ils veulent aller. Et nous, avec Tony et Nabil, nous allons là où ils ne veulent pas aller, où ils ne peuvent pas aller, parce qu'on essaye de couvrir toutes les animations. Et ça va commencer donc de vendredi. Et donc je sais pas si. Oui, je crois qu'à Radio Alpha, on vient ici à 18h pour le lancement. Et après, on démarre.
Normalement, oui.
Alors, il y a Suzette qui m'a montré quelque chose.
Alors en fait, on vient de créer l'événement sur les réseaux sociaux et cette année il s'appelle Banderoton.
Oui, c'est bien.
Parce que c'est drapeau, Banderoton et du téléthon. À chaque fois, on rajoute le ton à ce qu'on fait. Il y a eu le bonneton, il y a eu le crocheton, il y a le banderoton. Voilà, on essaye de...
C'est bien.
On n'a pas beaucoup d'imagination, donc on reste sur le ton.
Ça
englobe la partie portugaise et la partie française. Pour relier nos cultures.
Le ton, il ne faut pas oublier que ça vient de marathon.
Bien sûr.
Le téléthon, c'est le marathon de la télévision.
Voilà.
Donc, c'est tout à fait normal de rajouter ton et c'est bien.
Non, c'est sympa.
Mais d'ailleurs, il y a un jeu de mots. Ton, ça veut dire un certain nombre de choses en plus.
Ouais.
Bon. Surtout, il y a un chanteur à côté de moi et c'est très bien de que je crois je parle. Alors, on a vu dans les éditions précédentes, c'est un nombre d'activités dans les centres commerciaux, ça se maintient.
Oui.
Est-ce que cette année, ça va être possible ou pas?
On
avait les pompiers, on avait tout un tas de...
Oui, le samedi à Créteil-Soleil, il y aura les pompiers. Normalement, on est toujours en train de dire normalement. Pour l'instant, c'est maintenu. Dans les centres commerciaux, on a des ventes, en effet, des gens qui font un petit peu ce que font Suzette et ses copines des Hirondelles, c'est-à-dire qu'ils créent des objets toute l'année, principalement pour les fêtes de Noël, avec des sujets pour les sapins, etc., et qui vont les vendre au centre commercial. On a des repas qui se font malgré tout, on espère que... Mais avec des gestes, faire très attention, les gestes barrières, le pass sanitaire, enfin voilà, tout est fait pour que ça se passe le mieux possible.
Il faut faire très attention, mais je pense qu'on ça va aller. Pour le 3 et 4, je pense que ça va être bon. À part la Suisse, je ne sais pas.
Non, il faut
les choses, se gâtent quand même.
Ouais.
Mais bon, pour l'instant, ça va quand même.
Ouais. Non, il faut penser que le Téléthon, il a changé quand même la vie des malades.
Bien sûr.
Il a changé, parce que maintenant, aujourd'hui déjà, ils bénéficient de diagnostics sur leur maladie, parce que parfois ils avaient les maladies mais ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Alors bien sûr, pas toutes, il faut savoir que évidemment il y a tellement de maladies que mais du coup grâce à ça ils ont des parcours donc de soins qui sont adaptés et il y a aussi des premiers traitements comme vous le verrez là tout à l'heure. Je vois vous avez la photo de cette petite fille donc qui s'appelle Victoire qui a bénéficié d'un essai thérapeutique. Vous avez aussi un petit garçon qui s'appelle Jules, l'année dernière, donc il y a un an, avant d'avoir ce traitement, il ne se tenait même pas assis. Enfin, il avait beaucoup de mal à se tenir assis. Les parents étaient obligés de le faire manger, etc. Ben maintenant, Jules, alors il est en fauteuil, bien sûr, le petit, mais il mange tout seul.
Ouais.
Et il a une joie de vivre. Moi, je l'ai rencontré. Il a une joie de vivre terrible. Je lui ai dit, Jules, je peux te prendre en photo avec moi? Il m'a dit oui. Et voilà, il est plein de vie.
Ouais.
Dans la mesure du possible, bien sûr, mais voilà, et c'est un seul, il a eu une seule injection en fait, et voilà, il a réussi, donc
Et là, la petite fille aussi, elle commence déjà à se tenir seule, sa tête.
Alors justement, on parle des enfants, des maladies rares, des enfants. Est-ce que les écoles vont participer au Téléthon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Je ne parle pas de l'éducation nationale. Mais au niveau des directeurs, des professeurs.
Oui, non, il y a beaucoup d'écoles. Alors, comme je disais, là, à Joinville et à Orly, je sais qu'on appelle la course du muscle. C'est-à-dire qu'on fait courir les enfants et ils demandent, en fait, autour d'eux, à leurs parents, à leurs parrains, à leurs fromagers, comme il y en avait un qui m'avait dit, etc., de leur donner, donc, une participation pour le Téléthon et eux promettent de courir. Alors, bien sûr, avec leur âge, et ils s'entraînent.
Mais c'est vrai, Marie, qu'il y a ses enfants, bon, puisque le parrain, c'est Soprano. Tu veux dire, est-ce que Soprano va venir voir courir?
Ah oui, moi, quand j'annonce que
c'est
Soprano...
Ça, c'est le rêve des enfants, c'est normal.
Ils sont tous heureux, ils ont les yeux qui brillent, etc. Est-ce que Soprano va nous... Ben non, Soprano, malheureusement, il ne peut pas venir partout, mais c'est pour ça qu'il est à la télévision, parce que comme ça, tout le monde le verra. Mais Soprano, il faut savoir... Comme tous les autres parrains, il est venu visiter le Généthon, il est rencontré les chercheurs, il est venu voir aussi les familles, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient juste chanter et puis basta. C'est un peu ce que Tony fait avec nous dans le Val-de-Marne. Tony, il a visité aussi le Généthon avec moi, il a assisté à une réunion, même cette année, il a fait une réunion, il a fait une permanence avec moi. Voilà, le parrain, il faut qu'il s'implique aussi, qu'il voit justement l'envers du décor, parce que organiser le Téléthon, c'est un gros travail.
Yeah, à propos de
c'est un travail énorme qu'Amalia fait.
Et son équipe. Hein,
et son équipe, mais bon, surtout, on sait très bien qui est devant tout ça, c'est Amalia, c'est un travail permanent pendant toute l'année.
D'ailleurs, c'est le travail des associations. Et justement, Suzette...
Il faut avoir beaucoup d'amour dans son cœur, beaucoup de tendresse pour être capable d'assumer comme ça toute l'année. Moi, je l'admire.
Suzette, votre participation d'Hirondelle dans le Téléthon, ça ne date pas d'hier, bien entendu. Mais vous avez tout un tas d'autres initiatives de solidarité. Alors, concrètement, ce qui concerne le 3 et le 4, à partir de quand vous allez être dans les... locaux de Radio Alpha, etc.
Alors,
je pense qu'il faut.
On va commencer à l'antenne à 8h du matin le samedi. Nous serons là avec Amalia, bien sûr, pour le lancement du vendredi.
Et moi, je serai là aussi.
Voilà. Oui. Et donc, on te rejoint donc le samedi matin. Moi, je serai là avant, bien sûr. Et toi aussi. Mais on pourra commencer à l'antenne à 8h du matin. On est en train de préparer le programme, mais bon, je sais qu'à 9h, on aura un médecin qui pourra venir, un chef de service en neuromusculaire qui viendra nous parler des maladies neuromusculaires et du généton. Ensuite, nous allons continuer. Il y aura des artistes comme tous les ans qui viendront nous rendre visite. Nous allons également, l'émission de Cap Magellan, Tempestad 2. Les jeunes vont participer également au Téléthon. Ça sera la première fois qu'on va les inclure dans ce processus. Ils sont en train aussi de préparer un programme. Et nous allons continuer après dans l'après-midi. Le sport associatif va être entièrement dirigé aussi.
Avec Sosa Gomes.
Hein. Avec Sosa Gomes va être entièrement dirigé aussi vers le monde associatif sportif qui fait des événements pour le Téléthon.
Attends deux petites secondes. Alors, le monde associatif sportif. L'après-midi et le matin pendant je passe la berthe, je pense que c'est une bonne occasion aussi les associations portugaises.
Tout à fait, donc nous je passe la berthe, il y aura aussi également des communications. Manuel Pintlops et puis Chic Chic feront aussi une spécialité du Téléthon, donc contacteront les associations qui participent au Téléthon, pourront parler avec eux en direct des événements, des sous déjà réunis, etc. On va en fait inclure toutes les émissions et tout le programme du samedi autour du Téléthon.
D'accord. Et alors, et le foot, comment? Et après, s'il y a un match de foot...
s'il y a un match de foot, on carapate, on rentre à la maison.
Non, il
n'y en a pas. Je savais qu'il n'y en avait pas. Donc, en fait, c'est l'espace associatif sportif, hein, ou sport associatif, qui basculera sur le sport associatif télétonien. Voilà.
Voilà, bon, et après la nuit, bien entendu. Et comme d'habitude, on va avoir des choses à boire et à manger ou pas?
Oui, alors nous avons l'entreprise Canel qui a accepté de nous nourrir pendant la journée, bénévolement également. Donc Canel est une des premières entreprises, la première à avoir son logo sur la banderole que nous fixerons à l'ambassade du Portugal.
Tony Gama, parrain du Téléthon. Bah, t'es une bonne charge, ça te va bien, ça, à toi. Amalie Frère, coordinatrice, courage aussi, de AFM Téléthon Val-de-Marne, Seth Fernandes, Association Hirondelle. Merci. Alors, je renvoie quand même aux réseaux sociaux.
Oui,
donc,
bien sûr.
Sur AFM Téléthon 94, oui, Val-de-Marne, avec toutes les initiatives. Association Hirondelle aussi, pour que vous expliquiez un petit peu tout ce que vous êtes en train de faire. Oui,
oui, donc sur la page des réseaux sociaux de l'association Hirondelle, sur ma page, je voudrais juste, pour terminer, relancer un appel aux entreprises qui souhaitent participer. Surtout, n'hésitez pas, votre logo sera imprimé, sera fixé sur cette bâche contre un chèque à l'AFM Téléthon. Donc, n'hésitez pas vraiment, on a besoin de vous pour faire monter le chiffre, que l'association Hirondelle et la Radio Alpha pourra verser ensuite au Téléthon. Ce n'est qu'avec votre aide qu'on pourra y arriver, donc faites monter haut les couleurs du Portugal.
Et n'oubliez pas que vous avez 60% de ce don qui est déduit des impôts.
En réalité, quelqu'un qui donne 100 euros
il donne quelqu'un 40.
C'est ça, oui. 40. Même pas, ouais.
Merci, bien entendu, 36-37, mais je laisse Soprano mais elle le dit mieux que moi.
Salut les amis, c'est Soprano. J'ai eu la chance d'être le parrain du Téléthon 2021. J'ai rencontré des chercheurs déterminés à trouver des traitements contre les maladies rares. Des malades, des familles qui se battent avec une énergie incroyable. Des enfants qui ont retrouvé des forces grâce à la thérapie génique. Avec vous, le Téléthon peut tout changer. La collecte continue. Faites un don sur téléthon.fr.
Estamos aqui ao direto neste domingo, dia 28 de novembro, passagem nível na vossa companhia até às 14 horas e lembro que a emissão é redifundida na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. Bom, meus amigos, preparem-se aí, porque, bom, se alguém está a fazer argamassa, ouçam se fizerem favor. Já agora...
Chez les Portugais, la religion, c'est super important. Hein. Alors pour ceux qui ne sont pas portugais ou qui ne connaissent pas les Portugais, au Portugal, il y a deux religions principales, ouais. Le catholicisme et le footballicisme. Et moi, j'avais des parents très croyants. Ah bah oui, et qui m'ont inscrit au dos. C'est quoi, moi, tous les dimanches matin, j'allais à la messe et au catéchisme. Et tous les dimanches après-midi, j'allais au footballicisme. Du coup, tous les dimanches matin, c'était... Jésus est notre sauveur, aimons-nous les uns les autres. Et l'après-midi, ça devenait « Vas-y, José, casse-lui la jambe, il en a deux !» Aimons-nous les uns les autres, mais pas ceux de l'autre équipe. Et surtout si c'est Porto.
Nem mais nem menos, não sei se o pessoal do Porto vai gostar disso. José Cruz, boa tarde.
Boa tarde, gostaram e até aplaudiram.
É verdade, bom, em construção. Bom, eu falei da argamassa há instantes. Bom, um dia destes o arranha-céus vai estar construído. Ora, vais apresentar o espetáculo no dia 5 de dezembro, exatamente no L'Européen, que se encontra 5 Rue Biot, em Paris 17. O espetáculo que inicia às 15 horas, salvo erro. Ora, neste espetáculo há toda uma série de temas, aliás vamos passar alguns, entre outros vegetariano ou não, bom, isso é Aurélie. E o problema é que os portugueses gostam de carne, mas me explicas isso. Ora, finalmente este espetáculo em construção, bom, o espetáculo já tem algum tempo, mas tem a impressão que à medida que o tempo passa, vais modificando o conteúdo, o que é que se passa?
Sim, foi exatamente o que aconteceu. Mas antes de tudo, bom dia, boa tarde. Não, bom dia, ainda não almoçamos.
É verdade.
bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo o time, bom dia Arthur, é um grande prazer estar com vocês. E é verdade que esse espetáculo tem uma vida um pouco especial, porque esse espetáculo nasceu um ano e meio antes do confinamento, do primeiro. Uhum. E então foi um espetáculo que foi evoluindo, e muito até, porque antes do confinamento, quando eu comecei a escrever este espetáculo, estava a sonhar de me tornar pai, e durante o confinamento aconteceu. Então o espetáculo tive de modificar vários sketches para modificar a história, porque claramente tornei pai. Então 2 anos depois, quando eu voltei aos palcos, ou seja, vamos dizer no último mês de setembro, quando tudo acabou e voltamos à normalidade, já estava com 9 sketches e o espetáculo tinha-se modificado. E então ainda mais o título era um título adaptado a este espetáculo, porque estive sempre, durante 4 anos, em construção, a escrever, reescrever este espetáculo, em comparação com a minha vida.
Ora, precisamente a tua vida, bom, durante a Covid, bom, vimos dificuldade, e há muitos, muitos artistas, que músicos e não só, técnicos de espetáculo, bom, muita, muita gente que se encontrou praticamente desmunida. Bom, os intermitentes ainda conseguiram ter algum subsídio de desemprego, outros aproveitaram-se das redes sociais. Como é que viveste essa, porque durou praticamente 1 ano, não foi?
É isso. Eu, como sou ator comediante intermitente de espetáculo, desde há agora 20 anos, beneficiei do que chamamos em francês l'année blanche. Mas também o que eu fiz é que não parei de trabalhar, continuei a fazer cada vez mais vídeos, vídeos que tiveram bastante sucesso, como os vídeos sobre a saudade, 25 de abril, por exemplo, e consegui arranjar trabalho graças a esses vídeos, como, por exemplo, gravar vozes para documentários, publicidades, empresas, e mesmo então, se não consegui ir ao palco, consegui zerar carne do meu lado. E graças a isso também, quando o confinamento acabou, como eu não tinha parado de trabalhar com os vídeos, o público esteve presente, voltou ao espetáculo e graças a Deus está a correr, as coisas estão a correr bem, consigo ter público e espetáculos marcados desde que o confinamento acabou.
Ora, a propósito de vídeos, encontraste um novo meio de transporte, Transpalette. Vale a pena explicar esse vídeo?
O meio de transporte é a trotinete portuguesa, que ainda hoje com 5 anos está a dar a volta ao mundo, está a andar por pela net. Ainda hoje, cada mês, são algumas 15, 20 mil visualizações que continuam, e é um sucesso enorme que continua a trazer pessoas, e nem só eu, a me levar aos espetáculos, aos teatros.
Mas é uma transpaleta elétrica, essa já, não? É a tua tritone... trotinete portuguesa.
É a trotinete portuguesa, isso tudo pode ser a versão manual ou então a versão elétrica, é isso mesmo.
Mas a versão manual temos que empurrar, é difícil estar em cima. Ora, eu vou passar um pequeno de sketch que é Aurélie Vegetarienne. Porquê? Tiveste algum problema com uma vegana, ou o que é que se passou?
Ah, é que cada vez, hoje em dia, as pessoas, sobretudo quando se tornam pais, estamos confrontados com perguntas importantes, e claramente que à minha volta há cada vez mais pessoas que não comem carne ou querem reduzir o consumo da carne. E então isso torna-se um bocadinho um problema, porque, como eu digo, eu sou português.
Não, mas precisamente, é que nós vamos ouvir isso, porque les vegans, ele é português. Bom. Força.
Est-ce qu'il faudra que je lui donne à manger de la viande ou que des légumes? Alors, parce que ça, c'est la grande mode aujourd'hui, les végétariens. Eh oui, et Aurélie, elle est végane. Et moi, je suis portugais. Ah, chez moi, il y a toujours plus de viande que de légumes dans l'assiette. Hein? Quand il y a plus de légumes, c'est qu'on est malade. Et moi, je n'aime pas être malade. C'est vrai, tout le monde sait ce que c'est que les véganes. Ouais. C'est un peu l'Al-Qaïda des légumes. Et pour Aurélie, c'est quoi? Mais manger des animaux, mais c'est comme si on commettait un meurtre. C'est un assassinat, c'est criminel. Mais vous n'avez pas le droit, vous êtes des vrais cannibales. On n'a pas le droit de tuer les animaux. C'est des êtres vivants, comme nous, avec une âme, une sensibilité, des sentiments. On doit les laisser vivre, tranquilles, en paix et en liberté, dans leur milieu naturel. Ah ouais? Et le jour où le gamin il a des poux, on fait quoi? On ouvre un Airbnb? Bien plus chez les spous.
José Cruz, os veganos provavelmente vão te chamar à pedra, não?
Ah, por acaso tenho cada vez mais amigos que são veganos. E é verdade que até nos, na comunidade portuguesa cada vez mais vegetarianos e veganos. E claramente é um dos assuntos importantes que estão a modificar o nosso comportamento. Então, no espetáculo, é verdade que é um assunto novo que, por exemplo, não tratava no primeiro espetáculo lá. E que agora chegou nesse espetáculo porque, como dissemos, é um espetáculo que está em construção. E tentei no espetáculo também acrescentar desse sujeito que eu não tratava no primeiro espetáculo. E esse é um dos assuntos cada vez mais importantes que estamos a enfrentar.
Mas ao mesmo tempo, é uma questão de sociedade, mas é uma questão também de tolerância, porque efetivamente há um certo número de fundamentalistas. Bom, eu, como tu dizes no sketch, não é? Nós comemos vianda, parece que somos os assassinos. Tem a ver também com o facto de necessidade de sermos tolerantes com os outros ou não?
Claramente que sim, temos que ser tolerantes. Hoje em dia temos a possibilidade de escolher como é que queremos comer ou então acreditar na religião ou não. E quem não concorda conosco, então é aí que deve haver tolerância. Quem é que tem razão? Quem é que está num caminho mau? Não podemos dizer, cada um tem o seu sentimento, as suas ideias e também este espetáculo de humor tem este objetivo, dizer que, afinal, mesmo com diferenças, conseguimos viver juntos, porque, como diz a história, Aurélie e eu acabamos por juntar-nos e conseguir viver e até fazer um bebê. Mas é verdade, a tolerância neste espetáculo é uma coisa muito importante.
Mas José Cruz, será que hoje ainda é possível os humoristas trabalharem normalmente, não ter medo da censura? Porque, por exemplo, hoje um Coluche, provavelmente, estaria na prisão. Isto é um exemplo. O Piper de Proge, como é que vês a tua profissão, essa função de humorista?
Então, honestamente, é cada vez mais difícil, é verdade. Hoje, quando fizemos algumas piadas ou dizemos algumas coisas, por exemplo, na semana passada fiz um vídeo sobre a frase rontuguê da semana. E que é uma frase real que eu vi, ou que então as pessoas mandam. E muitas vezes são as pessoas que mandam: olha, José, minha mãe, meu tio disse isso. Porque eu adoro essa língua francesa, que é uma mistura então do francês e do português, que eu já tratava no primeiro espetáculo. E por ter publicado essa frase em vídeo, a maioria das pessoas, 95%, 99%, já adoraram, gostaram, riam-se e ainda me mandaram ainda mais exemplos. E algumas, pouco, pequena porcentagem, manda insultos, coisas muito más. E isso é só para uma frase de português. O que é nada. Mas não acho que é ofender ninguém. E em cada sujeito, por exemplo, também os veganos, pessoas escreveram para dizer: epá, não devias dizer isso, os animais. É cada vez mais sujeito à conversa e até à discussão quando fazemos humor. Hoje em dia é verdade que não temos a liberdade que tínhamos nos anos 80, 90, é que logo que assim que se diz uma coisa, há logo 5, 10, 15, 20. E por vezes até mais, pessoas que te caem por cima logo para contestar e com muito ânimo, e muitas vezes é demasiado. É esse o problema. E são essas pessoas que se ouvem mais do que a maioria que concorda, ri, ou então não se importa. E quando não se gosta de uma coisa, não se importa, muda-se de caminho e tudo.
Não houve, desliga. Bom. Mas a propósito do frantuguês, houve alguém que tinha iniciado há uns anos atrás um dicionário de frantuguês. Não sei se essa experiência foi para a frente ou não, mas é uma coisa extraordinária, não? Porque, por exemplo, quando se fala de chefurdagem, bom.
Pois, mas hoje em dia a coisa é assim, o português, o português tem alguns 30 e tal, 40 dialectos, se não me engano, através do mundo inteiro, que são língua portuguesa misturada com palavras e linguagens das zonas que os portugueses foram descobrir isso tudo. E o português, afinal, teve o mesmo caminho. Há 1 milhão e tal de portugueses que vieram para a França, é uma língua romana, que tem a mesma raiz, e então claramente algumas palavras iguais, e não é sempre essa realidade, mas então essa língua tornou-se real. E, por exemplo, eu tive a oportunidade para este fim de semana com a Tuna do Porto, que veio até Paris. Uhum. Falámos, conversámos sobre isso tudo, porque estou a preparar um vídeo sobre as tunas, e quando ele disse, e também falo português, eles logo se riram, e quando eu disse, vocês claro conhecem a tração de jambon e 1 quilo de carotas, e logo se riram, e disseram-me sim, é fiambre, fatia e cenouras. É uma língua que até está a ser percebida hoje em dia em Portugal, e é só para piada, para brincar, mas também para não esquecer esta vez dos nossos pais, da nossa imigração. Então, claramente, que a maioria das pessoas concorda com isso, e ainda há algumas pessoas que são capazes de insultar ou seja lá outra coisa. É isso que torna a nossa profissão cada vez mais difícil, e estamos a entrar numa situação onde já não é preciso ter défenseur, mas está cada vez mais a chegar l'autocensure. E isso é que é perigoso.
E voltamos aqui ao direto, estamos na reta final de passagem deste domingo 28, com a nossa companhia está José Cruz, que com o seu espetáculo em construção, vai ser no dia 5 de dezembro, no L'Européen 5 Rue Biot, em Paris, 17. Ora, José Cruz, eu gostava de ter uma explicação de texto, como se costuma dizer, explicação de texto em francês, de maneira que, para já, vamos, durante 23 segundinhos, Saint-Symphorien sous Chaumerac. Vamos ouvir.
Jouer à Saint-Symphorien sous Chaumerac. C'est normal. Je vous jure, ça existe. Saint-Symphorien sous Chaumerac. Je vous jure, ça existe, cette ville. Quand j'ai rentré le nom dans le GPS, il m'a dit, t'es sûr? Oh non, c'est bon, moi je t'emmène, mais t'es sûr? Ok, mais je te préviens, moi je descends pas de la voiture.
José Cruz, isto é uma alusão a quê, exatamente?
Então, Saint-Symphorien sous Chaumerac é uma cidade real que existe, então, no Auvergne, e foi a primeira vez onde eu fui estrear o primeiro pedaço desse novo espetáculo. Uhum. Há 4 anos e meio, 5 anos.
Uhum. Parece que quando se lê Chaumerac, bom, isto ao princípio pensei que tinha a ver uma coisa com o Chirac, depois com o chômage, o desemprego, mas nada tem a ver. Mas porquê? Porque quando falavas desta localidade, as pessoas não acreditavam, não?
É isso mesmo. As pessoas não acreditavam que essa cidade existisse. Saint-Symphorien sous Chaumerac. Uhum. É uma verdadeira cidade que existe e que tive muitas dificuldades a encontrar até com a ajuda do GPS.
José Cruz, obrigadíssimo. E de qualquer maneira, daqui até o final da próxima semana voltaremos a falar do teu espetáculo. Lembro, será no dia 5 de dezembro, às 15 horas, no L'Européen. Espetáculo em construção, aliás, está sempre em construção perpétua, graças à atualidade, graças à vida. José Cruz, um abração e um beijinho ao bebê, então.
Sim, está ali ao lado, está a chorar, já vou ter que ocupar-me dela. Um grande obrigado a todo o time e então, rendezvous dia 5 de dezembro. Até breve.
Obrigado,
e obrigado.
José Cruz, obrigadíssimo. Precisamente, como eu estava a dizer, estamos a chegar ao final da primeira hora e sem esperar. Fado em Paris, com Sara Correia e Marco Rodrigues, hoje a partir das 16 horas, no Trianon 80 Boulevard Rochechouart, Paris 18. E precisamente é um fado de Sara Correia que vamos ouvir por passares.
só para me ver. Já perdi tantos amores que me trazem no sentido. E seja lá o que isto for, vou chamar-lhe amor e querer. Ponho a voz do coração a guiar tudo o que faço, sem ligar ao que se diz. Sobre o fio das minhas dores, entreguei-me à sua mão para cuidar do meu cansaço e a contar em ser feliz. Ponho a mesa, arranjo as flores, trago aqui dentro de mim aquilo que eu não digo. O silêncio que ao chegar calou tudo o que sonhei. Viu-te entrar no meu jardim e eu morrer de amor contigo. Viu-te ir para outro lugar e que eu nunca mais na vida amei. Ponho a mesa, arranjo as flores, seco as lágrimas e canto. E à janela...
Rádio Alfa.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
São 13 horas.
Rádio Alfa.
Bonjour à tous. Il est probable qu'il y ait déjà des cas du variant Omicron en circulation en France. Déclaration du ministre de la Santé. Olivier Véran a pris la parole devant la presse en fin de matinée. Écoutez.
À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heure, très probablement, il faut se dire les choses. Il circule déjà en Belgique, il a été identifié en Italie, il a été identifié en Allemagne. Et nous travaillons d'arrache-pied avec toutes les cellules territoriales des agences régionales de santé pour identifier des éventuels cas suspects, les isoler. Nous les identifierons et nous ferons ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire nous freinerons au maximum sa diffusion et sa circulation.
Pour faire face à l'arrivée de ce nouveau variant, classé comme préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé, les mesures sanitaires deviennent plus strictes dans de nombreux pays. En France, les cas contacts des personnes testées positives au variant Omicron devront s'isoler même s'ils sont vaccinés. Pour entrer au Royaume-Uni, le test PCR redevient obligatoire à l'arrivée avec une période d'isolement en attendant le résultat. Le ministre des Outre-mer en route pour les Antilles après de fortes tensions ces derniers jours. Sébastien Lecornu sera en Guadeloupe demain et en Martinique mardi. Il va rencontrer des responsables politiques, syndicaux et des acteurs du secteur économique. Il sera question de l'obligation vaccinale des soignants reportée au 31 décembre, de 1000 emplois jeunes supplémentaires ou encore du débat sur l'autonomie de la Guadeloupe. À cause des tensions entre le Royaume-Uni et la France, les Britanniques seront les grands absents cet après-midi d'une réunion organisée par la France autour des migrants. Réunion provoquée par ce drame. Mercredi, 27 migrants sont morts dans la Manche en essayant de rejoindre le Royaume-Uni. Seront présents autour de la table, en plus de l'Hexagone, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique, ainsi que des représentants de l'Union européenne, d'Europol et de Frontex, l'agence européenne des frontières. Et puis, 11 départements toujours en vigilance orange, neige et verglas. Dans le Massif central, les Alpes et les Pyrénées. Le Pas-de-Calais est également en alerte orange, mais cette fois pour risque de crue. Très bonne journée à tous.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
E começamos esta segunda hora da Passagem Nível. Lembramos que a emissão é redifundida na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Nesta segunda hora que vamos ter, vamos falar do filme O Cônsul de Bordeaux, que retraça a vida de Estive Sousa Mendes, que em 1940 salvou dezenas de milhares de pessoas das garras nazis. A projeção prolongando dia 11 de dezembro às 20h30 no Centro Cultural João Vidal em Marly-le-Roi, departamento 78. O nosso convidado será Jean-Didier Clemenceau, dos Amis de Jumelage com Viseu, e uma espécie de prolongamento desta entrevista, falaremos do livro Lisbonne, Ville Verte, de Patrick Stroman, edições Chandain, precisamente, que faz um retrato de Lisboa em 1940. 1940, onde chegaram dezenas de milhares de refugiados, precisamente para fugirem ao nazismo. Depois falaremos da Cante Alentejano, nem mais nem menos. Até já.
Alfa, a rádio que nos liga.
Et on vient au direct deuxième heure de passage à niveau ce dimanche 28 novembre. Et si on allait au cinéma, bon, il faut attendre un petit peu, le 11 décembre. À l'initiative des Amis du Jumelage de Marly-le-Roi, dans 78, ville qui est jumelée avec Viseu et avec le soutien du Centre culturel Jean Villard. Justement, il va avoir la projection du film Le Consul de Bordeaux le samedi 11 décembre, comme j'ai dit tout à l'heure, à 20h30. Et avec nous, justement, pour nous parler de cette initiative, on a le vice-président des Amis du Jumelage et celui qui est en charge du jumelage avec le Portugal, justement, Jean-Didier Clémenceau. Bonjour.
Bonjour Monsieur Sylvain, merci de votre appel et de votre intérêt pour notre manifestation, c'est super.
Voilà, bah, de toute façon je suis de très près de tout ce qui se passe à Marly-le-Roi parce que vous avez déjà eu cette initiative. Alors peut-être une petite piqûre de rappel, le jumelage a été exactement, disons, signé au le protocole à quelle date?
Alors écoutez, Marly est une ville très impliquée dans le jumelage, puisqu'on a été une des premières villes à mettre en place un jumelage. C'était avec l'Angleterre en 1970, 71 peut-être, et on en fêtera d'ailleurs le 50e anniversaire au mois de mai prochain. Ensuite, nous avons mis en place un jumelage avec Leichlingen en Allemagne, dans la région de Leverkusen et de Bonn. Et enfin, le jumelage avec Viseu est arrivé en 1996. Mmh. Voilà, donc il y a 25 ans, et nous fêterons aussi l'année prochaine le 25e anniversaire de ce jumelage avec nos amis de Viseu.
Voilà, et en même temps, vous êtes aussi jumelé avec la ville de Kita du Mali.
Nous sommes également visités, voilà, vous avez raison de le préciser. C'est un jumelage d'un style un peu différent, les jumelages Viseu-Marlow en Angleterre, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Leichlingen en Allemagne sont des jumelages, je dirais, culturels, d'échange. Le jumelage avec Kita est un peu plus difficile à mettre en place sous forme d'échange et de voyage sur place, vous en doutez. Mais nous sommes toutefois présents par de l'aide médicale, soit de la formation, soit du matériel.
Voilà, de la solidarité, justement.
Tout à fait.
Alors, avec ce qui concerne le Portugal, indépendamment des échanges entre les deux villes, vous avez, les amis du jumelage ont pris un certain nombre d'initiatives, entre autres, je me rappelle d'avoir assisté d'ailleurs, autour de la participation des soldats portugais à la première grande guerre 14-18.
Tout à fait, donc en 2017, pardon, je vous ai coupé, Arturo.
Non, tout à fait, non.
Tout à fait, en 2017, nous avons célébré le 100e anniversaire de l'entrée en guerre du Portugal, daté de 1917, par une très belle soirée à laquelle vous étiez bien entendu présent, qui était animée par un historien bien connu des Portugais et des lusophones, qui est Manuel do Nascimento, qui nous écoute peut-être, auquel cas je le salue. Et Manuel do Nascimento donc, nous a relaté la relation entre la France, l'entrée du Portugal dans la guerre et la France, qui n'était pas d'aujourd'hui d'ailleurs cette relation, puisque Manuel do Nascimento, quelques temps après, nous a fait un très bel exposé sur le thème qui était « Quand le Portugal parlait français ». Donc vous voyez, les relations franco-portugaises ne sont pas d'aujourd'hui et nous nous en réjouissons bien entendu. Donc effectivement, en 2017, on a fait cette soirée sur la célébration du 100e anniversaire de la Grande Guerre du Portugal. Et en 2018, nous avons fait cette manifestation sur « Quand le Portugal parlait français ». Donc là, l'année 2020, pas la peine d'en parler.
Oui, Covid oblige, oui, tout à fait.
Voilà, très peu d'activités. En revanche, on a maintenu les contacts avec nos amis de Viseu. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la ville de Viseu. Pour ceux qui ne le savent pas, la ville de Viseu est représentée par une association qui s'appelle Saberes et Sabores Grand Vasco. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de les accueillir, d'accueillir leur président lors de notre manifestation du 11 décembre prochain.
Ah ben ça c'est une nouvelle, voilà. Hein, j'étais pas au courant de ça. Alors justement, c'était pas pour rien qu'on passe ce film, le Consul du Bordeaux, c'est un juste parmi les justes, justement.
Tout à fait.
Donc c'est quelque chose qui s'est passé complètement inaperçu en France pendant des années. Au Portugal, il a fallu attendre au milieu des années 80 pour que le Portugal reconnaisse enfin son acte héroïque, parce que grâce à lui, c'est plus de 30 000 personnes qui ont réussi à échapper au nazisme, et d'autant plus bon, que Paris était occupé, etc. etc. Mm-hmm. Donc ça s'est passé à Bordeaux, à Bayonne, à Hendaye. Donc c'est très important, l'action de quelqu'un qui a dit non, finalement, aux ordres d'un dictateur.
Tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Il a eu le courage de dire non aux ordres de Salazar, qui lui-même obéissait, entre guillemets, à ce qui se passait en Allemagne de l'époque. Et il a eu ce courage et il a sauvé 30 000 personnes. Beaucoup de juifs, mais également des communistes, des résistants. Et je crois qu'il y a une liste également de personnalités connues, mais peut-être que vous les connaissez mieux que moi, Arturo, qui ont bénéficié de cette aide du consul Mendes.
Mmh. Ah oui, je pourrais citer quelques noms. Hein. Bon, c'est pas une liste exhaustive. Mandré, Julian Green, Anna Arendt, entre autres, qui c'est qui est passé par Lisbonne aussi, Jean Renoir. Jean Giraudoux, il est passé à Lisbonne parce qu'il cherchait son fils qui était parti à s'engager à Londres. Voilà. Mais on a eu Saint-Exupéry aussi. Ils ont embarqué alors le navire SS Sibone. Je garantis pas la prononciation. Non, mais enfin, il y a tout un tas de gens, des peintres, etc., etc. Ouais, donc, Lisbonne, c'était le port de la liberté, entre guillemets. Voilà. Et tout ça grâce à un homme. Et d'ailleurs, M. Clemenceau, il faut dire que ça y est, Ernestinho Sousa Mendes est entré au Panthéon, au Portugal. Oui, ça a mis des années. C'était le 19 octobre. Enfin, c'est pas évident, même en France, des fois, on a eu du mal à reconnaître ceux qui ont vraiment résisté, parce que, bon, ça dérange les gens. C'est étonnant, quand même.
Ben oui, c'est étonnant, oui. Effectivement, il est rentré au Panthéon. Peut-être que vous savez qu'il a également une place qui porte son nom à Jérusalem.
Tout à fait.
Et il a bien entendu une rue, une statue à Bordeaux. Et je pense qu'on peut peut-être ajouter, sans casser de secret, le projet de la ville de Paris.
Oui, et il va avoir une promenade à son nom, oui.
Voilà, tout à fait.
Dans le 17e.
Voilà, c'est un personnage, comme vous dites... Comme vous dites, Arturo, c'est un personnage dont on a mis pas mal de temps à reconnaître son action. Mais voilà, maintenant, c'est fait et ce n'est que justice. Parce que franchement, on était, quand on a mis en place cette manifestation, on a eu beaucoup de contacts avec des gens qui disent, mais c'est très très bien de faire ça parce que c'est très très peu connu en France.
Hein. Voilà. Et je pense que là, M. Clemenceau, on peut réunir un certain nombre de communautés. Bon, je pense que c'est très... Alors, par rapport, vous avez à avoir un certain nombre d'invités officiels, mais entre autres, c'est très important, c'est la présence d'un des petits-fils de Justice Sousa Mendes. Je veux parler de Gérald Mendes.
Voilà. Alors, Gérald Mendes est un des petits-fils, il y a eu beaucoup de petits-fils, la famille Mendes, beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants. Donc, Gérald Mendes, francophone, puisqu'il habitait au Canada, sera présent ce jour-là. Donc, nous avons eu le contact par Manuel Nascimento. Mais je pense que vous-même, vous le connaissez, Gérald Mendes.
Oui,
vous avez déjà parlé
tout à
avec
fait.
Lui. Donc on est enchanté de le retrouver. À la suite du film qui donc a lieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au Centre culturel Jean Villard à Marly-le-Roi. Marly-le-Roi, pour les gens qui ne sont pas des Yvelines, c'est entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, très facile d'accès par l'autoroute A13. Et le Centre culturel Jean Villard est bien fléché dans la ville, il n'y aura pas de problème. Donc après la projection du film, nous aurons un débat avec la salle et nous attendons beaucoup, beaucoup de questions, notamment grâce à la présence de Gérald Mendes, qui va apporter une touche personnelle. C'était quand même le petit-fils du consul, donc il va nous parler de son grand-père. On est très, très impatients, très, très impatients de mettre en place cette manifestation, parce que pour le Portugal, c'est ce que je vous disais tout de suite, hein, notre action de jumelage est pour l'instant limitée à des opérations purement culturelles, c'est-à-dire histoire essentiellement. Bon, la peinture, on va mettre en place peut-être aussi des relations avec des peintres, des artistes portugais. Mais l'année 2020, je n'en parle plus, on en a suffisamment. Il suffit de citer le nom 2020 pour savoir, tout le monde comprend.
Alors, bien entendu, bon, la salle, je pense qu'elle a une capacité de 250 places, c'est ça?
Voilà, un petit peu moins, oui, 250 personnes. Pendant que j'y pense, M. Sylvain, avant que je n'oublie, nous aurons également la présence du co-réalisateur du film, qui s'appelle João Correa, je pense que lui aussi vous le connaissez, qui va venir de Bruxelles pour participer aussi à cette soirée. Donc vous voyez, sur un événement purement local de Mardi-le-Roi, on a quand même la chance d'avoir avec nous M. Gérald Mendès, petit-fils du consul, et le réalisateur du film.
Et à propos, je compte avoir dimanche prochain, à savoir justement le 5, je dis bien le 5 décembre, par téléphone, Patrick
Gauthier,
c'est le président du, des Amis du Jumelage, voilà, tout à fait. Donc Gérald Mendès, par téléphone, et Manuel de Nascimento, donc l'historien, également, je compte avoir le co-réalisateur João Correa de Almeida. Bon, donc ça c'est, en perspective, c'est la semaine prochaine, mes amis. Alors, entre-temps, environ 250 personnes dans la salle.
Oui,
bon,
oui.
On réserve pas, parce que vous avez donné, pour davantage d'informations, on a votre numéro de téléphone.
Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que, bon, la salle est relativement... Bon, la salle est 250 places, hein, à peu près. C'est même une belle salle. Mais la nature de l'événement nous fait penser qu'on aura beaucoup de monde. Donc, pour les personnes qui souhaitent absolument être certaines d'accéder à la salle, il suffit de regarder sur le site des Amis du Jumelage de Marie-Leroy, www.adj-marie-leroy.fr. Il est très simple pour rentrer dans votre moteur de recherche Amis du Jumelage, et la première Amie du Jumelage qui apparaît, c'est celui de Marie-Leroy. Donc vous aurez tout de suite les références du site. Et là, vous aurez trouvé mes coordonnées internet et téléphoniques, et les personnes qui souhaitent pré-réserver, s'inscrire avant, sans avoir à payer d'ailleurs, le paiement se fait sur place.
C'est 5 euros, je crois.
C'est 5 euros, 5 euros, voilà. On a ouvert ça une somme relativement modeste, modique, pour que plus de personnes puissent venir, bien entendu, ce soit pas un handicap. On a la chance de pouvoir le faire aussi un samedi soir. Ça aussi, ça nous aide beaucoup pour une bonne salle bien remplie. Donc effectivement, ces personnes vont sur ce site, les Amis du Jumelage de Marie-Leroy, et peuvent m'appeler sur le téléphone qui est sur ce site. Et à ce moment-là, je prends leur nom, ils seront pré-inscrits. Donc la place, l'accès à la salle leur est garanti.
Voilà.
Et ils paieront sur place.
Jean-Didier Clémenceau, merci. Et tout à l'heure, dans deux petites minutes, on va prolonger cette interview avec avec un livre, Lisbonne, ville ouverte, de Patrick Stroman, édition Chandaigne, justement, où il fait un portrait, Lisbonne, 1940, justement, avec tous ses réfugiés, et la plupart grâce à Aristide Sozomerns. Jean-Didier, merci, et de toute façon, avec nos auditeurs, on revient à cette projection dimanche prochain, le 5. Merci.
Et ensuite, le 11. Merci, M. Silva, de votre intérêt. Merci, Radio Alpha, de nous avoir appuyés, donné la parole. Et on compte, bien entendu, sur le maximum de personnes pour cette belle soirée.
Merci bien, Jean-Didier. Merci. Fazer uma pequenina pausa e depois sim teremos a entrevista com Patrick Stroman, Lisbonne Ville Verte, edição Chandaigne. Eu prometi ter devido para dar um seguimento à entrevista que ouvimos há instantes a propósito do filme O Cônsul de Bordeaux, que será projetado em Marly-le-Roi no 11. Uma entrevista que realizamos com Patrick Stroman, onde ele faz o retrato de Lisboa, precisamente em 1940. Patrick Stroman, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y avait une drôle d'ambiance à Lisbonne, justement, en 1939-1940, mais on pourrait dire en résumé que finalement l'Europe, c'était un grand camp de concentration avec une seule sortie, c'était Lisbonne.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire il y avait déjà, à partir de la fin des années 30, beaucoup de réfugiés qui essayaient de quitter l'Europe et qui mettaient tout en œuvre pour trouver sur un des navires qui traversait l'océan Atlantique. Avec la chute de Paris et puis la fermeture conséquente des ports, notamment de Marseille, Lisbonne devenait la dernière porte de sortie que l'Europe pouvait offrir aux réfugiés. Et donc, à partir donc, de juin 1940, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui quittaient, beaucoup avaient déjà quitté l'Allemagne ou l'Autriche ou l'Europe de l'Est, l'Europe centrale à l'époque. Et avec la chute de Paris, donc même les Français, ceux qui pouvaient, se sont dirigés vers la frontière espagnole, ont essayé de traverser avec beaucoup de mal pour certains, ont traversé l'Espagne pour arriver à Lisbonne et espérer pouvoir donc embarquer sur un des navires qui faisait la traversée vers New York, où ou pas au Mexique. Mmh. Alors... Donc là, effectivement, la ville était évidemment pas du tout préparée, disons, pour cette arrivée massive de réfugiés, mais la ville, les habitants et jusqu'à un certain degré aussi l'administration ont effectivement d'une façon tout à fait admirable, quand on regarde avec les yeux d'aujourd'hui, on réussit à administrer cette situation et à permettre à beaucoup de gens de quitter l'Europe et donc d'avoir leur vie sauve.
Alors, des dizaines de milliers de réfugiés, bon, il y avait des anonymes, des intellectuels et des artistes, parce que c'est incroyable le nombre d'intellectuels et artistes, je pense Saint-Exupéry par exemple, et pas seulement, c'est-à-dire c'est énorme tous les gens qui ont été sauvés du nazisme finalement.
Oui, alors c'est tout à fait, effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, en fait, c'est mon éditrice Anne Lima qui m'avait fait remarquer un jour qu'elle avait vu à la suite d'une exposition, j'avais appris à la suite d'une exposition que le photographe Roman Wisniak avait pu quitter l'Europe en passant par Lisbonne. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet, j'ai découvert que Wisniak avait embarqué sur le même bateau que Saint-Exupéry, que vous venez de mentionner, et aussi Jean Renoir. Alors du coup, je me suis dit que des trois personnalités aussi différentes, un photographe, un écrivain et un cinéaste, se retrouvent tout en ayant des biographies et des vies tout à fait différentes, finissent par se retrouver sur le même bateau pour se réfugier à New York. Ça m'a paru tout à fait extraordinaire, et ça m'a paru aussi dire quelque chose sur le statut que pouvait avoir Lisbonne à cette époque pour tous ceux qui souhaitaient qui essaient d'avoir la vie sauve et de sortir d'une Europe en guerre.
Et j'ai l'impression que c'est avec ces recherches que vous avez su que votre grand-père était passé par Lisbonne, bon, pour d'autres raisons.
Oui, alors ça, c'était effectivement très intéressant. Pour moi, c'était pas une révélation, j'ai toujours su qu'il avait effectivement lui aussi traversé Lisbonne, mais j'ai toujours, c'était un peu une histoire comme ça qui était un peu qui n'était pas vraiment mentionnée, mais il me semblait, quand j'étais jeune, il m'en avait parlé une fois, j'avais surtout le souvenir de la description véritablement apocalyptique, il m'avait livré de sa traversée d'Espagne, qui était, il ne faut pas oublier que l'Espagne était à l'époque évidemment complètement détruite par la guerre civile en 1940. L'Espagne sortait de 3-4 années de guerre civile. Le pays était exsangue et pour tous les voyageurs, le contraste était énorme entre cette Espagne au bord de la famine et l'arrivée à Lisbonne où contrairement au reste de l'Europe, les lumières étaient brillées la nuit, on pouvait circuler en voiture sans avoir les phares baissés. Donc il y avait c'était vraiment une ville qui était en liberté relative. Enfin, c'était quand même une ville qui n'était pas immédiatement menacée par la guerre et qui contrastait énormément par ce que les gens avaient pu voir lorsqu'ils avaient traversé l'Espagne. Et j'avais ce récit en tête de mon grand-père, mais j'avais pas vraiment chronologiquement réussi à... Enfin, je ne m'étais pas vraiment intéressé à l'amener pendant où j'avais effectué ce voyage, ni pour les raisons. Et c'est en travaillant donc sur ces réfugiés qui sont passés par l'Espagne que je me suis rappelé de ça, et je me suis un peu plongé dans ces documents. Et puis là, j'ai vu qu'il était... Il avait entrepris ce voyage fin 40, c'est-à-dire ben, là... Il est parti au mois de septembre 40, il est rentré en novembre en Suisse. C'est ce qui m'a tout à fait paru stupéfiant et vraiment étonnant. Et il est décédé il y a une vingtaine d'années, je n'ai pas eu l'occasion évidemment de lui poser la question. C'est comme il était d'origine juive, ça m'a paru assez extravagant que fin 40, un juif puisse prendre un bateau pour retourner de New York vers l'Europe.
Alors, vous citez un certain nombre d'œuvres, c'est-à-dire d'écrivains et pas seulement, parce que bon, il y a plusieurs petits portraits, petits ou grands portraits dans le livre. Et tout à l'heure, vous avez parlé de lumière. Et justement, je pense que la plupart des témoignages parlent de cette lumière de Lisbonne.
Oui, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a frappé absolument tous, indépendamment de la différence pouvait y avoir entre ces personnalités, mais tous étaient frappés, je dirais, par la vivacité de Lisbonne la nuit, de l'animation, les restaurants, les bars, l'éclairage de la ville, c'était vraiment la ville lumière. Et puis, il faut dire aussi que le jour, les gens étaient, venant de toutes les régions, les régions les plus diverses de l'Europe, étaient frappés par la beauté de la lumière, énorme de la lumière atlantique, dans laquelle baigne Lisbonne. Donc, c'était vraiment la ville, je pense, que c'est... Alors, c'est assez contrasté, parce que les gens avaient donc, beaucoup de ces témoignages, on découvre une véritable révélation en arrivant à Lisbonne. Ils étaient séduits par la beauté de la ville, et en même temps, on sent que ce n'est pas vraiment leur préoccupation de réfléchir sur cette ville. Au fond, tout le monde voulait s'en sortir. Donc, paradoxalement, tout le monde mentionne avec deux, trois phrases les sentiments qui les animent lorsqu'ils arrivent dans cette ville, ce qu'ils éprouvent lorsqu'ils voient cette société qui du coup a une vie, il y a une vie nocturne vraiment assez... encore une fois, en ce qui concerne les restaurants, les cafés, etc. Il y avait une liberté comme ça qui n'était absolument plus possible dans le reste de l'Europe. En même temps, dans la journée, il y avait cette beauté de la lumière naturelle, mais tout le monde se disait aussi comment est-ce que j'arrive donc à garantir une place dans une cabine d'un transatlantique, comment est-ce que je fais pour avoir un visa brésilien ou américain ou mexicain. Enfin, les gens étaient à la fois tiraillés entre, je dirais, les besoins immédiats qui étaient urgents et puis cette fascination qu'ils avaient éprouvée pour la ville.
Mmh. D'ailleurs, ça n'a pas été pacifique avec la police et avec le régime fasciste. Dans la mesure où il y avait des femmes européennes qui fumaient dans les terrasses des cafés, et ça, alors, c'était très, très, très mal vu au Portugal. Mais enfin, je pense...
Alors, il y avait effectivement un petit choc culturel, les femmes, déjà certaines qui tournaient en pantalon ou qui fumaient, ou même qui rentraient dans les bars. Les bars étaient quand même majoritairement fréquentés par les hommes. Même si, effectivement, il y avait, là, je pense, c'était aussi une vraie rencontre pour la société lisboète, parce que là, il y avait quelques... Alors, la presse parle de façon assez pudique de la nouvelle mode qu'on pouvait découvrir sur les plages des alentours de Lisbonne. C'est évidemment une mode qui est apportée par les réfugiés. Ce ne sont pas des revues de mode qui ont imposé une nouvelle ligne. Mais il y a là, je pense, effectivement, il y a eu un petit choc par rapport au fait que les milieux conservateurs pouvaient effectivement être un peu ébranlés en voyant ces mœurs. Beaucoup de gens avaient un arrière-plan un peu... Il y avait beaucoup de réfugiés qui étaient réfugiés parce que juifs, il y en avait beaucoup qui étaient réfugiés parce que socialistes ou communistes, d'autres parce qu'ils pensaient libertaires, autres, mais pour ceux qui avaient une formation, une idéologie un peu socialiste, évidemment, il y avait toujours un peu en filigrane l'idée de l'émancipation de la femme qui n'était pas vraiment... À l'époque,
alors,
à l'ordre du jour,
on est là. Loin de là. Et justement, il faut dire aussi qu'à l'époque aussi, le régime fasciste a institué un maillot de bain. Bon, pour les hommes et pour les femmes. Mais enfin, laissons tout ça. Alors, Patrick Stroman, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Ville verte, récit Lisbonne 1940, chez Chandaigne. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Precisamente foi a continuação da entrevista que realizamos com Jodita Clemenson sobre a projeção do filme O Cônsul de Bordeaux, catalogado no sábado dia 11 de dezembro às 20h30 no Centro Cultural João Vilar de Marly-le-Roi, departamento 78. E já agora vamos ouvir aquilo que eu chamo banda-anúncio do filme, nem mais nem menos.
Pátridas, gente sem nome, Jugaroto é um refugiado como eu, vítima desta guerra horrível. De certa forma, todos somos vítimas. Eu tinha 14 anos quando a Bélgica foi invadida por os nazis e tivemos que huir.
Chamo-me Aristides de Sousa Mendes e sou cônsul de Portugal em Bordeaux.
L'histoire d'un juste parmi les nations.
Vamos entregar senhas a todos os que aqui estão. Ninguém será esquecido.
Sacrilégio é deixar morrer essa gente sem fazer nada.
Neste momento está a emitir vistos no meio da rua.
Isto é não dito.
Aliás, senhor cônsul, tudo isto é muito irregular.
O seu problema é com o trabalho?
ou é com os judeus.
Un homme exceptionnel dressé devant l'infamie.
Os alemães chegaram. Temos pouco tempo.
Une page d'histoire à cœur ouvert. Le consul de Bordeaux.
Será no sábado de 11 às 20h30 no Centre Culturel Jean Villard em Marly-le-Roi, uma organização des Amis du Jumelage com Viseu. Na reta final desta passagem em nível do domingo, dia 28 de novembro, lembro, a emissão é redifundida à noite de quarta para quinta-feira, a partir das 12 horas. Terceira edição de quê? Da celebração do Património Cultural Imaterial da Unesco. Estamos a falar, evidentemente, do Canto Alentejano. Carlos Balbino, muito boa tarde.
Boa tarde, tudo como vai?
Tudo bem, obrigado. Ora, vamos começar precisamente por saber essa celebração decorreu no dia 26 de novembro em Paris 14, talvez um bocadinho de balanço dessa noitada?
Sim, sim. Organizámos um serão de celebração dessa data que é importante para os praticantes do canto alentejano, uhum. Que foi em 2014, o canto foi reconhecido como património cultural e material da humanidade, como o fado, como os chocalhos e como algumas outras práticas culturais portuguesas. Nós, como somos um grupo no estrangeiro, não é? Quisemos celebrar isso da nossa maneira, e a nossa maneira de celebrar era convidar um grupo também da região de Paris, e convidámos então o Ensemble Diva, que é um grupo de músicas árabes, andaluzas e da região do Mediterrâneo. Por isso foi um serão que organizámos na Casa das Associações do 14º Arrondissement. As pessoas inscreveram-se e vieram gratuitamente. Houve uma primeira parte de concertos onde as pessoas estavam sentadas e nós a interpretar as modas. E eles, na segunda parte, fizemos uma sessão de convívio à volta da mesa, cantando de forma espontânea.
Isso deve ter sido interessante, esse diálogo, digamos, entre praticamente as duas margens do Mediterrâneo, não?
Exatamente. Aí foi até uma ideia do grupo convidado, o Ensemble Diva, de fazermos duas modas juntas. Então nós ensinámos-lhes a cantar uma moda alentejana e eles ensinaram-nos a cantar uma moda da Argélia.
Uhum. Bom, os povos antigamente não haviam fronteiras, mas enfim. Ora, entretanto, vocês continuam a fazer todo um trabalho para dar a conhecer o canto alentejano, e precisamente vai ser na próxima terça-feira, dia 30 de novembro, que vai ser uma soirée de descoberta do canto alentejano. Vale a pena dar explicações.
Claro, claro. Vamos estar no Moulin Café, que é um café associativo no bairro 14, mais uma vez, e é um serão aberto às pessoas que quiserem vir descobrir o canto alentejano. Para nós vai ser uma forma de praticarmos o canto mais uma vez fora da sala de ensaio, uhum. E para quem não nos conhece é para ouvir estas polifonias do sul do Alentejo.
Sim, mas ao mesmo tempo, nós sabemos que é verdade que a Covid fez com que alguns elementos do rancho tivessem, digamos, desistido um bocadinho, tivessem perdido vontade de continuar. Vocês viveram um momento difícil.
Sim, sim, o grupo ficou um pouco dispersado. Houve pessoas que decidiram afastar-se durante algum momento para se protegerem. Temos pessoas de várias idades. Há malta jovem, mas também há malta mais velha, e os mais velhos foram os primeiros a afastar. E os mais novos, pronto, vão tentando agarrando a motivação, mas é complicado porque as regras, ainda vimos na última quinta-feira, voltaram a mudar, mas vamos fazendo. Fizemos uma grande sessão de recrutamento, ou algumas sessões de recrutamento desde setembro, e felizmente tivemos 4 membros que acabaram de entrar. Só para dar uma noção, há um ano, ou seja, antes do Covid, éramos 15 ou 16 de forma regular, mas conseguimos também, apesar desta crise sanitária, na última sexta-feira foram 11 pessoas que subiram ao palco, e para nós é uma vitória, porque chegou a uma altura em que éramos só 5 ou 6, Mas pronto, o grupo vai-se reconstruindo e as pessoas também que se afastaram também pouco a pouco vão voltando, por isso estamos cada vez mais fortes.
Aliás, vocês eram uma espécie, bom, no bom sentido do termo, uma manta de trapos, entre aspas, ou manta de retalhos, mais concretamente, porque havia as mais variadas nacionalidades no resto, não é?
Sim, nós não somos o reflexo nem do canto alentejano puro, que é uma coisa que eu acho que não existe, acho que ele depende de cada região onde ele é cantado. Nós somos mesmo um reflexo da vida em Paris, da vida associativa e das pessoas que gostam de cantar. Por isso, as pessoas que são francesas, que são do Congo, que são da Rússia, venham de onde vierem, claro que sim, que se interessarem pelo canto alentejano, são muito bem-vindas.
Ora, há uma coisa que a Covid impediu de fazer, foi a apresentação, porque vocês estava previsto que fossem até ao Alentejo, nomeadamente ao Alentejo, para apresentarem o vosso trabalho ensemble, não é? Que vocês gravaram com um certo número de grupos de cantar alentejano, precisamente, na região.
Exatamente, nós lançámos um disco que concentrava 16 artistas e grupos de referência atual no canto alentejano. Convidámos essas pessoas e esses grupos a virem ao estúdio com a gente e fizemos um disco fenomenal de 19 modas com vários géneros musicais. Ou seja, quando eu digo géneros é várias formas de fazer o canto alentejano. Há misturas com funk, com rock e até um bocado de metal, há outras que são mais a capela, outros que são com instrumentos regionais, por isso há mesmo uma grande variedade. E esse CD foi lançado no mês de março de 2020, ou seja, nós ainda não fizemos aquela digressão que estamos a programar para fazer no Alentejo. Se tudo correr bem, quando isto tudo acabar, vamos lá. Fomos convidados para o Canto Fest, que está a decorrer neste momento, mas mais uma vez, os grupos não se podem reproduzir por causa destas políticas sanitárias, então temos que ser pacientes, porque vai ser uma viagem muito interessante e vamos passar duas ou três semanas a viajar pelo país, para cima e abaixo, mostrando às pessoas que se pode também cantar em português fora de Portugal.
Ora, o disco é extraordinário, o único lamento é o facto de que não tenha saído em vinil, porque é extraordinário, porque o vosso CD em formato vinil, com a capa extraordinária, com tudo que lá está dentro, porque para além das 19 modas, como se costuma dizer, há também ilustrações bastante importantes. Acho que esse trabalho deve ser realçado também, Carlos Bobin.
Muito obrigado. Sim, sim, efetivamente. Deste CD é acompanhado de um digibook, ou seja, um livrinho de 160 páginas, em que vamos explicando em português e traduzido também em francês o que é o canto alentejano atualmente, dando um resumo da história e da evolução do canto alentejano e, claro, com algumas ilustrações, uma ilustração por moda. Ou seja, é uma experiência também visual e teórica daquilo que poderá ser o canto alentejano, pelo menos da nossa forma de ver. Vinil é uma boa ideia, acho que sim, e nós temos a vantagem também termos produzido o CD nós próprios, por isso se fizermos vinil é porque efetivamente temos esse pedido, porque felizmente não estamos constrangidos ou não estamos dependentes de outra produtora, né?
Há que lançar uma campanha de subscrição.
De subscrição?
Exato, bom, então, por que não?
Acho que sim, está bom, está lançada, já temos uma assinatura.
Carlos Balbino, portanto, esta Soirée Découverte vai ter lugar na terça-feira, dia 30 de novembro, no Moulin à Café, que se encontra no número 8, rue Sainte-Léonie, em Paris, 14. Dentro de instantes vamos ouvir alguma coisa. Bom, vai ser uma descoberta para os nossos ouvintes. Para o Carlos Balbino talvez não, ainda que depois vou-lhe perguntar quem é que está a tocar e quem é que está a cantar. Só posso dizer que o instrumento dele, ao que parece, é uma evolução da viola de Mano, precisamente música. Vamos ter 3 minutinhos e tal de música, Carlos, acho que vale a pena ouvir, de maneira que já agora vamos lá ver se descobre quem é que canta e quem é que toca. E o quê?
Obrigado.
Trevoada, mais tarde deu enchimento.
Nem menos, bom, o tema, meus amigos, anda por cima do tema, armou-se uma trovoada, mas Carlos Balbino, este senhor é muito, muito conhecido em Portugal, não?
Ele é, sim, ele ganhou o prémio Carlos Paredes em 2016, que é um prémio dedicado aos músicos portugueses que promovem a música portuguesa e a cultura portuguesa de forma geral. É o Pedro Mestre, que é um homem que ainda nem chegou aos 40 anos e já dá aulas de canto desde pequenino, desde os 15 anos, que já era ensaiador de grupos corais, nomeadamente dos Ganhões de Castro Verde, onde ele começou. Antes disso tinha feito parte de um grupo infantil, que era os Carapinhos, e desde lá não tem parado. Foi um dos grandes relançadores do revivalismo do instrumento que acabámos de ouvir, que é a viola campaniça, e basicamente com 15 ou 16 anos fez uma formação em Espanha para fazer guitarras e voltou reconstruindo, e com o apoio da Câmara Municipal de Castro Verde armou uma oficina para formar pessoas que muito, às vezes, na maior parte dos casos, mais velhas do que ele, não é? A ensiná-los a construir este instrumento. E é graças a ele que temos imensos dispositivos de canto alentejano no Alentejo, e também de construção e de prática da viola campaniça.
Aliás, bom, eu penso que o Carlos Balbino está a falar de uma operação de dinamização da viola campaniça nas escolas, portanto uma parceria entre a Câmara Municipal de Castro Verde, Escola Secundária e Cortiçol, União de Freguesias de Castro Verde e Casevelo, o que permitiu a criação de uma componente de aprendizagem, toque e construção da viola campaniça na Escola Secundária de Castro Verde, de maneira que eu estou documentado. Ora, Carlos Balbino, não é por acaso precisamente que eu falo desta viola campaniça, na medida em que qual é a ligação? Um doutoramento, a Sorbonne e a viola campaniça.
Pois, eu tendo acabado os meus estudos, o meu mestrado sobre o canto espontâneo, ou seja, o canto alentejano cantado de forma informal, ou seja, fora dos palcos, no cotidiano e em salões de convivialidade, decidi procurar a compreender o que é que se passa com a situação do património. O que é que o património está a fazer às outras práticas musicais, nomeadamente no Alentejo? Eu percebi que, por exemplo, no canto alentejano, o património está extremamente ligado, ou seja, que seja na forma formal ou informal. E esta coisa do instrumento, da viola campanista, é preciso relembrar que o canto alentejano, que é um canto que eu pratico, como já foi aqui afirmado, e sou ensaiador dos cantadores de Paris, o canto alentejano, quando foi declarado património na Unesco, é um canto que foi descrito como um canto à capela, ou principalmente à capela. Isto faz um impacto a todos os outros instrumentos que dependiam ou conviviam com o canto alentejano. A viola campanista é precisamente este lado negativo ou a sombra que o património pode deixar em algumas práticas regionais. Então vou fazer um estudo para perceber qual é a situação da viola campanista atualmente, que acabamos de ouvir a moda cantada agora da trovoada. É uma moda de canto alentejano, mas que também pode ser acompanhada por instrumentos, nomeadamente a viola campanista. Então é esse estudo que eu vou levar. Inscrevi-me na Sorbonne porque temos um grande especialista das guitarras árabes, que é o Jérôme Clerc, que vai ser o meu diretor de pesquisa. E se tudo correr bem, vou fazer uma co-tutela com a Universidade Nova para também ser co-dirigido pela Salva Castelo Branco, que é a fundadora do Instituto de Etnomusicologia em Portugal.
Significa que há nomes, talvez, que podemos falar deles, por exemplo, José Alberto Sardinha. Aparentemente foi um grande investigador que fez um trabalho, não só de investigação, mas de recolha também sobre a viola campanista, etc, etc. Portanto, há nomes que nós desconhecemos completamente em Portugal e que já fizeram...
Sim. Assim, o nosso processo, aliás, o José Alberto Sardinha faz parte também daquela vaga com o Michel Giacometti, ou seja, são pessoas que não têm uma formação académica nessa área, mas que se interessam e que vêm de outras áreas também científicas, mas que se interessam à cultura regional popular portuguesa. E é isso que nós temos. O trabalho do José Alberto Sardinha, é um livro que se chama Viola Campanista, o Outro Alentejo, e estamos a falar outra vez desta ideia, o que é o Alentejo e o que é o Outro Alentejo, ou seja, ver o Alentejo por aquilo que não é difundido, por aquilo que não é tão divulgado. E o trabalho dele, basicamente, nós chamamos este tipo de pesquisadores, investigadores, etnomusicólogos espontâneos, ou seja, que não têm o apoio, e ele diz no seu livro que não foi apoiado por nenhuma instituição, mas que foi uma grande contribuição, foi das primeiras contribuições à música cultural, à música popular portuguesa durante o século XX. Ou seja, foi o primeiro livro sobre a viola campanista. Desde então, a professora Salva Castelo Branco dirigiu a tese de mestrado da Joana Rodrigues, também foi sobre a viola campanista, e a minha tese vai ser a primeira em termos, a que vai ser enquadrada em termos de um doutoramento, ou seja, um nível académico mais exigente. Mas claro que o José Alberto Sardinha é uma pessoa que... contribuiu muito, não só ao canto alentejano, mas a outras práticas, nomeadamente foi ele que criticou e fez uma abordagem mais pós-moderna da história do fado. Ele escreveu um livro que se chama Uma História do Fado e que explica como é que o fado não tem a ver com o destino, essa desmistificação da palavra fado, mas que tinha a ver, o fado era uma história. E que os fados, os fadinhos destas personagens que eu passava, a Maria do não sei quê, o José do não sei quê, era a história dessas pessoas que podiam ser mais ou menos trágicas. E ele fez um trabalho espetacular. Gostava muito de conhecer esse senhor.
Carlos Balbino, obrigadíssimo. Entretanto, para que estiverem em Portugal na primavera e que forem até ao Campo Branco, durante o festival Sete Sóis, Sete Luas, precisamente vai haver um diálogo com outros instrumentos para além da viola campanista e com culturas igualmente do Mediterrâneo. Digamos, não digo que voltamos ao dia 26 em Paris 14, mas quase. Carlos Balbino, muito obrigado. E o disco, melhor é ir diretamente através das redes sociais, não é? Ou então também através do vosso mail, revlucida@hotmail.com, não é?
É isso mesmo. Ou vão a esse e-mail revlucid@hotmail.com ou vão ao site que é revlucid.org ou então procuram-nos nas redes sociais. Somos os cantadores de Paris e distribuímos em toda a parte do mundo.
Bom, obrigado, Carlos Balbino, e até muito breve, então.
Obrigado. Boa continuação.
E uma página de cores e depois música.
Besoin d'une location d'appartement ? Avez-vous pensé à la location meublée ? Simplifiez-vous la vie et venez simplement avec votre valise. Nous vous proposons de mettre à votre disposition tout le nécessaire pour la location de votre futur appartement, du mobilier, l'électroménager, à la vaisselle de maison, en passant par la télé à écran plat, tout est compris. Profitez d'une situation exceptionnelle au pied du lac de Créteil, à proximité de Commerce et du métro Ligne 8. Contactez la société MGI, le professionnel de la location meublée, au 01 45 10 15 03. MGI, une autre vision de la location.
E ao termo desta emissão do domingo dia 28, lembro a emissão que é redifundida na noite de quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. Obrigado a Manuel Alexandre. E já agora para terminar, esperamos só regressar aqui domingo que vem, hoje espetáculo no Trianon Fado em Paris com Sara Correia e Marco Rodrigues. Sara Correia já ouvimos um pouco antes das 13 e Marco Rodrigues vamos ouvir agora um pouco antes das 14 o tema O Amor Desaparece. Acontece, espero bem que não desaconteça a nós. Bem-ajam e até para a semana.
Escurece e o amor desacontece. Os sombra pisando, só a noite é o palco errado, dar o braço, mantê-lo curvado, à espera que o teu braço enlace e se acalme meu braço enlaçado. Escurece e o amor desacontece. Os pés pisam-me a sombra pisando, sem imagem a eternizar-nos, sem porquê a desgostar-nos. Cuidar se o amor nos é falso, não andar pelas nuvens descalço. Fico à porta para ser-me um segundo a entender-me. Fico à porta e se não entro, perco o pé e perco o momento. E só por ver-me assim, me recuso a ver, recuso a aceitar o que o espelho vai dizer-me.